Dégenrer, l'émission pour déranger.
Une émission féministe, les 2e et 4e mercredis de chaque mois,
de 18h30 à 20h,
sur Radio Kaléidoscope 97 FM. En quoi la science et les techniques sont-elles des instruments et des enjeux de pouvoir ?
Quel regard féministe sur les luttes et les critiques de la société industrielle et du pouvoir scientifique ?
Une technologie peut-elle émanciper ?
Qui définit le réel ?
Qui a le pouvoir de définir le réel ?
Le rationalisme occidental ?
Les scientifiques experts ?
Mon papa ?
Les lois du marché ?
Les anti-industriels ?
Et vous avez déjà entendu parler des critiques féministes de la science ?
Bonsoir. Alors ce soir sur l'émission Dégenrée sur Radio Kaléidoscope, on va vous parler de la science et de nos approches ou d'approches féministes des questions de science et d'industrie avec Marina, Hélène, Inga et moi.
Et Amélia à la technique.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et donc pour commencer, pourquoi une émission féministe sur les questions scientifiques et industrielles, pas seulement parce que ces milieux sont en très grande partie composés d'hommes, mais aussi parce que, en tout cas, un certain nombre d'approches féministes questionnent la science, l'institution scientifique en elle-même.
Et alors, pour donner une idée en fait rapide de ces critiques féministes de la science, c'est par exemple parce que la science prétend de définir le réel et avec cela, elle justifie tout un tas de structures de domination, et entre autres les structures patriarcales. Par exemple, on en a parlé dans la dernière émission où justement il y avait cette question est-ce que le cerveau a un sexe, et où il y a quand même des discours scientifiques assez, disons, craignos aussi là-dessus. Un autre exemple, c'est que, par exemple, la science et les technologies sont liées à l'idée de progrès, et en fait, il y a vraiment cette idée que la science apporterait une sorte d'émancipation pour les personnes, et là-dedans aussi pour les femmes. Et voilà, nous, en tant que féministes, on est plutôt très critiques là-dessus. Voilà, en fait, ça, c'est pour donner une idée de d'où vient l'intérêt que peuvent porter les féministes de manière critique à la science. Et en fait, c'est vraiment un sujet à part entière dans les mouvements féministes. Après, en France, c'est relativement peu développé par disons les féministes universitaires ou généralement en fait par des groupes féministes. Ça l'est vachement plus, notamment en fait sur aussi les sciences, ce qu'on appelle les sciences dures, et ben en Allemagne et dans les pays anglo-saxons. Et alors pour faire cette émission, on s'est entre autres servi d'un livre qui est la documentation d'un congrès de femmes en sciences dures et techniques. Et en fait, ces congrès-là, c'est des congrès annuels qui ont lieu depuis le début des années 70 et qui voilà sont organisés surtout dans les pays germanophones, mais ouverts à des chercheurs et des chercheuses plutôt d'ailleurs. Et alors le bouquin en fait dont on s'est servi, c'est il s'appelle Wissenschaft Widerstand, qui est en fait une sorte de jeu de mots parce que ça veut dire à la fois science résistance et aussi le savoir crée de la résistance. Et donc, en fait, c'est la documentation du 27e congrès de ces femmes, et ça date de 2001.
Alors, donc, dans cette émission, dans un premier temps, pour vous donner un petit peu une vision d'ensemble, dans un premier temps, on va se pencher sur la spécificité, en fait, de ces critiques féministes de la science. Et dans un second temps, on va faire le lien vraiment entre, justement, la science, l'industrie et technologie, voir en quoi tout ça s'est imbriqué, notamment par le biais de critiques dites anti-industrielles, tout en restant dans une perspective féministe, avec des questions assez centrales là-dedans, à notre sens, qui sont par exemple la question de est-ce que on peut considérer que les technologies émancipent, entre autres, les femmes. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va voir un petit peu en quoi la science est un enjeu de pouvoir. Puisque en fait, la science, à la base, elle se veut, parce que la science, elle tient un discours, hein, que ce soit le milieu scientifique, etc. Il y a bien un discours omniprésent, et donc la science voudrait objective, neutre, ce qui voudrait dire hors du champ de la politique, hors du champ du pouvoir. Et pourtant, je crois qu'on peut affirmer que la science, elle est bien un enjeu de pouvoir, donc qu'elle est politique, et même vraiment qu'elle est indissociable de cette sphère du pouvoir. Alors, ces réflexions, on va les retrouver qui vont démontrer ça, ce lien entre politique et science. On va les retrouver dans différents champs, notamment dans donc justement des critiques dites anti-industrielles. Et je vais m'appuyer en partie sur des arguments de ces critiques-là dans ma démonstration. Mais aussi, je vais beaucoup m'appuyer sur des arguments développés par une philosophe belge qui s'appelle Isabelle Stengers et qui a développé en fait des recherches depuis une trentaine d'années autour des sciences et des pouvoirs. Donc on verra un peu pourquoi justement elle emploie tout ça au pluriel. Alors le premier élément qu'on peut retenir un peu de son argumentation, qui est assez essentiel, c'est que la science, elle va définir la réalité. C'est-à-dire qu'elle définit ce qui est et ce qui n'est pas. Donc Isabelle Stengers, elle va décrire ce pouvoir immense de façon assez ironique dans un extrait.
La science, dit-on, est précisément ce qui permet aux humains de se libérer des préjugés, des désirs, des illusions qui les empêchent de voir ce qui est. Elle a pour règle la neutralité et l'objectivité. Qu'est-ce que la Terre ? Est-elle sur le dos d'une tortue ou au centre du cosmos ? Flotte-t-elle sur un océan chaotique ou est-elle prisonnière d'une voûte cristalline ? Non. Nous savons tous et toutes qu'elle est une planète tournant sur elle-même et autour d'une étoile qui, à son tour, fait partie de... etc. Nous le savons tous et toutes, le doute est impossible, et il l'est parce que la science est entrée en scène. Elle a pu faire régner la concorde parce que la discorde provient des préjugés, des désirs, des illusions qui opposent les humains et les groupes, qui les empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. La science est ce qui peut et doit mettre les humains d'accord, au-delà de leurs querelles politiques et culturelles, parce qu'elle donne accès à une réalité qui est indépendante de ces querelles. Et la preuve qu'elle a effectivement accès à cette réalité est le fait que les scientifiques sont capables de se mettre d'accord entre eux, de dépasser leurs divergences, de reconnaître ce que leur impose la réalité qu'ils interrogent.
Alors, usant de ce pouvoir de définir la réalité, la science va alors se donner le droit en fait, de ranger le monde en deux catégories. Alors, on trouverait d'un côté la catégorie des scientifiques. Donc on pourrait faire rentrer dans cette catégorie, selon le contexte, donc bien sûr les chercheurs et autres spécialistes, mais également, par exemple, la classe politique. Et la deuxième catégorie, ce serait celle des non-scientifiques, donc a priori la majeure partie de l'humanité, qui serait, elle, alors prisonnière de ses préjugés, de ses désirs, de ses illusions. cette deuxième catégorie de personnes, face à la science, bon, elle a quand même nécessairement une attitude de respect, puisqu'on ne peut pas remettre en question la science, hein, mais elle peut peut-être quand même trouver que les vertus de cette science sont un peu froides, donc elle aurait peut-être besoin d'un peu de supplément d'âme ou de sensibilité. C'est ce qui expliquerait qu'elle développe de manière un peu accessoire des relations privées, une convivialité, des jeux, des arts, et que parfois elle aurait besoin de s'oublier dans la télé, devant la télé ou dans le football. Mais en tout cas, dès qu'il s'agit de choses vraiment sérieuses, la science et son pragmatisme vont reprendre le dessus. D'accord. Ensuite... donc on peut voir que la science elle est érigée comme une puissance absolue hein, puisqu'elle elle a donc ce pouvoir de définir la réalité. Alors c'est un peu comme si elle en venait à remplacer Dieu. D'ailleurs même souvent maintenant la science on l'écrit avec un grand S comme le D majuscule de Dieu. Et jusqu'à un certain stade historique, effectivement Dieu il pouvait expliquer à lui tout seul l'ordre du monde. Donc un peu comme la science à l'heure actuelle. Donc ainsi, depuis que nos sociétés se veulent démocratiques, le seul argument d'autorité quant à ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, provient toujours, d'une manière ou d'une autre, de la science. Donc on voit bien en quoi science et pouvoir sont indissociables. Et d'ailleurs, les classes dirigeantes, elles appuient réellement leur pouvoir sur des arguments qui relèvent du champ scientifique. Donc, elles n'hésitent pas à asséner, par exemple, à tout bout de champ, « il est prouvé que », ou « du point de vue scientifique », ou encore « les faits montrent que », ou « en réalité », qui sont donc autant d'introductions à un raisonnement qui coupe court à toute discussion, à tout questionnement. En gros, un peu ce qu'on peut retenir, c'est ne réfléchissons plus, les spécialistes et autres experts le font à notre place. Et bien évidemment, ils savent mieux que nous ce dont nous avons besoin et ils ont pour tâche de nous ramener à la raison. Alors... So the Bamta Hava and the Sari and the Abai and Sati gather than he other side and Hava you gal gastra mare.
Alors, dans les critiques féministes de la science, un des points soulevés, justement, c'est le statut d'expert. Et alors, dans le livre dont je parlais tout à l'heure, il y a notamment une petite citation d'une historienne qui s'appelle Martina Calarditri sur ce point-là.
Dans la société industrielle moderne, les experts ont un monopole radical. Ils définissent les problèmes et livrent les solutions. Par le statut de scientifique, ils et elles ont le pouvoir de diagnostic. Ils et elles créent des institutions et des services qui gèrent entièrement la vie des humains, ce qui revient à déposséder les personnes de leurs facultés propres.
Et si on veut s'intéresser un peu plus de plus près à ce statut d'expert, dans les problèmes que ça peut nous poser, c'est que, entre autres, l'expertise scientifique, en fait, revient quelque part à la négation, en fait, de l'existence de différents types de savoirs et d'approches d'une problématique, comme par exemple, je sais pas, il y a un savoir plus empirique, c'est-à-dire basé sur l'expérience. Et ces types de savoirs sont tout simplement niés, en fait, par l'expertise scientifique. Et un autre problème, en fait, qu'on peut voir, c'est en gros que le fait de séparer les experts des non-experts fait que, en gros, des observations et des savoirs sont isolés et pas considérés dans leur contexte spécifique. Et cela dépossède quelque part les personnes concernées de leur propre pouvoir d'expertise, c'est-à-dire leur connaissance propre de leur situation propre, voilà, et des choses comme ça. Et ce monopole d'experts, en fait, est voilà, surtout développé ou peut-être surtout visible, par exemple, dans la médecine. Mais en fait, ça peut exister dans plein de domaines différents, comme l'urbanisme. Enfin, en gros, il y a vraiment un peu tous les domaines de notre vie où il peut y avoir des experts pour nous dire comment il faut faire, quoi.
Et d'ailleurs, j'avais une sorte d'anecdote ou d'exemple à propos de ce pouvoir d'expert qui concerne un peu au départ la médecine, mais pas que. Une amie qui travaillait depuis des années dans un supermarché et qui se retrouvait presque tous les soirs chez elle en rentrant à pleurer. Et un jour, elle a raconté à un ami à elle qui lui a dit « Mais c'est pas normal du tout, on pleure pas comme ça, t'as un problème, il faut que t'ailles voir un médecin ». Et donc résultat, elle est allée voir un médecin, elle s'est inquiétée, qui lui a dit « Mais oui, vous êtes en dépression, ça va pas, il faut vous traiter, il faut voir quelqu'un, il faut consulter, il faut prendre des médicaments, etc. » Et quand plus tard elle a raconté donc cette prise en charge médicale qu'elle avait suivie, un autre ami, celui-ci, était très choqué en disant « Mais qu'est-ce que tu racontes finalement, peut-être que le problème, c'est pas toi qui dois arrêter de pleurer. Si tu pleures, c'est sans doute que ben, le métier que tu fais depuis des années, il est tellement stressant que tu as besoin de pleurer pour évacuer et pour gérer ce stress quotidien. Et bon, si ça peut te faire du bien d'aller voir un psy ou de prendre des médicaments, voilà, ça peut être une solution, mais il faut peut-être que tu ne prennes pas tout sur toi et que tu n'aies pas l'impression que c'est toi qui as un problème et qui est fautive, mais que tu questionnes en fait cette situation sociale. Peut-être c'est le travail qui n'est pas adapté à toi, c'est pas un problème que toi tu n'es pas adapté au travail. Et donc voilà, ça c'était juste une sorte d'exemple comme ça, où comment ce médecin ou ces médecins qui ont un regard un peu déconnecté à un moment de la vie sociale d'une personne vont dire c'est un problème médical et la traiter avec des médicaments, ou en tout cas pas du tout s'autoriser à avoir une vision sociale ou politique de la chose avec la personne, et en tout cas lui donner les moyens de, elle, trouver ses propres solutions pour aller mieux, et soit décider qu'elle a besoin de pleurer dans la vie et que c'est pas un problème, soit aussi que peut-être elle peut essayer de modifier sa situation de travail ou en tout cas de la questionner.
Ouais, c'est effectivement ce problème de ne pas voir en fait les choses dans leur contexte, mais de les isoler à un moment donné. Et justement, en parlant de contexte, si on regarde plus largement en fait la société en fait dans laquelle on vit, et pour comprendre le rôle des experts là-dedans, c'est-à-dire dans un système notamment capitaliste, et ben en fait c'est leur rôle, c'est aussi de vendre des symboles, et avec ces symboles en fait des sécurités pour je sais pas tout un tas de dangers qui existeraient dans notre vie, comme par exemple j'en sais rien, je pense à des vaccins qui sont présentés comme obligatoires parce que pour se protéger d'une maladie, alors que en fait on pourrait très bien décider de ne pas se protéger de cette manière-là, parce que on peut avoir tout un tas de bonnes raisons de pas le faire. Et voilà, en fait il y a comme ça des, si l'expert dit que c'est, ce n'est pas dangereux, et ben ce n'est pas dangereux.
Et alors voilà, toujours avec ce rapport en fait finalement à la vérité, au réel, et au fait que la seule personne qui peut exprimer cette vérité, c'est l'expert scientifique, c'est l'expert technique.
Et alors parfois il y a des scientifiques qui ont un rapport un peu plus, relativisé et critique en fait à cette soi-disant vérité. Et je voudrais bien lire en fait un extrait d'une intervention de Bärbelmaus, qui est une biologiste et qui étudie l'histoire des sciences et qui travaille notamment sur la génétique. Et en fait, c'est l'extrait que je voudrais lire, c'est en fait une sorte de parenthèse qu'elle fait avant un discours, la présentation d'un travail sur la génétique en fait qu'elle a fait. Donc en fait c'est pas vraiment le sujet propre scientifique qui m'intéresse, mais plutôt, enfin bon bref, vous allez voir, je vais vous lire le texte. Alors le titre c'est Science as Culture, que on peut traduire en fait par la science comme une culture, c'est-à-dire la science comme une vision du monde et une manière d'agir dans le monde inscrit dans une culture spécifique, et ici donc bien la culture occidentale Voilà. Avant de parler concrètement du sujet de mon intervention concernant la biologie médicale, je voudrais d'abord évoquer les bases théoriques de mes réflexions pour présenter mon regard « différent » entre guillemets sur la biologie et la médecine. Je conçois l'univers biomédical comme une forme spécifique de la narration, comme une pratique culturelle qui crée des interprétations qui sont traitées comme des faits objectifs. Ainsi, la science et la médecine correspondent à des pratiques narratives qui développent des modèles d'interprétation du réel. Je pars de l'idée que le sens n'est pas inscrit dans les choses, mais qu'il est seulement engendré par les pratiques qui créent un rapport à ces choses. Pourtant, ce sens est le plus souvent considéré comme précédant ces pratiques concrètes, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que ces interprétations sont orientées par ces pratiques et un contexte donné, mais serait une description objective et absolue. En même temps, ces choses sont aussi formatées par le discours. Alors, cela veut dire que le terme de « représentation » ne vise pas la description du sens, mais en fait son élaboration et son imposition par le discours en tant que savoir indiscutable. Par conséquent, la nature, entre guillemets, ne précède pas le discours, mais elle est, tout comme le sont les soi-disant faits scientifiques, le résultat d'une construction culturelle. Ainsi, des réalités naturelles, entre guillemets, comme par exemple le sexe biologique, sont-elles formées comme un savoir par le discours scientifique ? C'est-à-dire que ce discours définit ce qu'est un corps naturel, comme en fait un corps qui peut exister seulement parce qu'il est interprété en tant que tel par le discours scientifique. Dans mes observations, je me concentre sur l'analyse des normes culturelles présentes dans des textes médico-biologiques. Et la construction des corps, notamment des corps sexués, passe par l'exclusion de ce qui ne correspond pas aux normes. On peut partir du principe que l'objectif de la génétique humaine est la création de normes génétiques, et par le fait qu'elle définit des limites génétiques entre la santé et les pathologies, qu'elle définit aussi une santé génétique.
Donc voilà, ici une fois de plus... Avec ce texte, on voit comment il y a une confusion, on peut dire, entre l'interprétation, en l'occurrence scientifique, et la réalité. C'est-à-dire qu'on produit un discours, on analyse ce qui se passe, on observe, on propose une interprétation, et on transforme cette interprétation en réel, en vrai. Et c'est un peu ce problème de glissement ou de confusion que soulève là cette chercheuse qui est plus relativiste, et qui dit, attention, il faut faire la différence entre l'interprétation d'un côté... et le fait qu'on n'accède pas au réel, et qu'en tout cas, il peut y avoir d'autres interprétations de ce réel, et qu'il faut resituer ça dans une culture, dans un projet idéologique, etc.
Oui, et aussi, en fait, quand elle dit qu'elle part de l'idée que le sens n'est pas inscrit dans les choses, c'est aussi un peu cette histoire que l'interprétation qu'on peut faire d'éléments du réel, ça dépend aussi du rapport qu'on a à ces éléments-là.
Finalement, en fait, ce qu'il y a derrière ce texte pour nous, c'est la question de mais qu'est-ce que le réel ou qui crée le réel ? Comment ? Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de réalité et, ou de vérité et qui la crée ? Et bon, notamment, quel est le rôle très important des organes scientifiques, des scientifiques ou du discours scientifique pour imposer ce que serait le réel ?
Oui, et en fait, bien un des points de critique, en fait, qu'on peut porter, c'est qu'en gros, le discours scientifique, il nie toute une complexité. Enfin, que pour nous, le réel est bien quelque chose de très complexe. Et un exemple, en fait, très presque banal qu'on peut donner, c'est n'importe quelle situation de discussion entre des personnes où, en fait, chaque personne, elle peut avoir une perception très différente ou très propre, en fait, à comment elle vit cette situation-là. Alors que en fait les données objectives avec lesquelles pourrait travailler la science, par exemple, ça serait le nombre de personnes présentes, la température dans la pièce, je sais pas, le si les voix sont aiguës ou pas, enfin j'en sais rien, des choses comme ça, mais au final en fait ça dit pas grand chose sur les réalités que vivent les personnes qui participent à la discussion.
Oui, et puis même pour donner un exemple encore un peu plus concret, imaginons une grande discussion un soir à 150 ou 300 personnes sur un grand sujet, comme je sais pas, les nanotechnologies et les centres de recherche, et on peut imaginer qu'il y ait des gens qui soient enthousiastes de cette discussion, qui apprennent plein de choses, pendant que d'autres sont extrêmement frustrés de n'avoir pas pu parler ou sont dépassés par la complexité de ce qu'ils leur envoyaient dans la tête alors qu'ils n'en ont jamais entendu parler, qu'il y a des gens qui parlent tellement qu'ils n'écoutent pas les autres, que d'autres personnes vont juste pas rester dans la pièce. Bref, on peut imaginer en fait plein de perceptions différentes qui décrivent affectivement, socialement, politiquement cette réalité, et dont la science, en tout cas les outils scientifiques de quantification, de statistique, etc., sont en fait finalement très insuffisants pour décrire cette réalité-là multiple et qui doit se soucier en fait des points de vue des différentes personnes en présence et des différentes perceptions.
Alors on vous propose une petite pause musicale et on va écouter un groupe qu'on aime bien qui s'appelle Robotnichka. Et alors c'est une chanson, enfin vous essaierez de comprendre les paroles parce qu'elle chante très très vite, mais en gros elle parle un peu de l'aliénation des humains aux objets et aux technologies, hein, pour résumer super simpliste, enfin bref. Et ça s'appelle 001 01 01 01 01. Vous êtes toujours sur Dégenrer, l'émission féministe pour déranger sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Je rappelle que cette émission est rediffusée lundi prochain pour ceux et celles qui l'ont loupée, de 18h30 à 20h lundi.
Alors concernant un peu les critiques qu'on peut faire de la science, il me semble important de visibiliser que déjà le contexte dans lequel on est, qui est donc une société capitaliste, et où donc la politique est économie et où l'économie guide la politique. Et donc dans ce contexte-là, la science, elle est au service de ce système d'exploitation. Par exemple, je crois que on voit bien que les sciences, c'est elles qui vont servir à développer ce qu'on va appeler des innovations, par exemple, innovations qui sont à la base de nouveaux produits qui vont pouvoir envahir le marché. Alors donc ça pose bien aussi les questions de mode de production de tous ces produits qui vont eux-mêmes être source d'exploitation, de la main-d'œuvre bien sûr, mais aussi des matières premières. Voilà, donc tout ça c'est complètement enchevêtré. Et pour illustration, on va vous lire un extrait d'un texte assez drôle et ironique du CU, Comité Universitaire de Libération.
L'économique pollue. Peu importe, la recherche découvrira des industrialisations saines grâce aux explorations sur Mars. Elle inventera des green robots polluants à la fabrication, mais à usage des polluants. L'éducation est submergée, ennuyante, démodée, peu importe. Un ordinateur par élève et des cours sur Internet. L'armée tue trop et trop grossièrement. Peu importe, la miniaturisation et le téléguidage donneront des guerres propres et les GPS installés sur nous tous et les fichages ADN et les écoutes par satellite de toute la planète ne nuiront qu'aux terroristes. Mais surtout, l'emploi baisse, les gens s'appauvrissent. La recherche créera des emplois et démocratisera les biens de consommation élémentaires. Des OGM pour tous, DVD de voiture, télévision sur le frigo, nouveaux champs d'activité. Nouvelles usines biochimiques, robotiques, nucléaires. Ah, la baisse du chômage grâce aux centrales nucléaires et aux usines d'armement. Quel gain social! La voiture du peuple, hard discount. D'une main, la recherche crée du boulot. De l'autre, elle baisse le coût de la vie. Démocratisation de la salade piémontaise en plastique grâce aux chercheurs en agronomie.
Alors on voit bien là l'illustration de l'imbrication de ces trois sphères politiques, économiques et scientifiques. Donc c'est bien une des supercheries un peu premières de la science qui voudrait nous faire croire que elle est complètement indépendante de tout ça. Alors une dernière idée qui fait que la science elle est politique, c'est bien qu'elle est faite par des individus et que ces individus ils sont bien le fruit aussi d'une culture, qui sont issus d'un certain milieu social, etc. Et donc ils sont conditionnés et que tout ça ça va bien se ressentir dans les recherches qu'ils vont développer. On pourrait donner un exemple, dire que par exemple c'est pas anodin que dans des contextes coloniaux comme toutes nos sociétés qui ont colonisé en partie l'Afrique, l'Asie, etc. Il y a des recherches par exemple sur le cerveau des populations non blanches qui ont été largement développées. Donc tout ça, ça montre bien l'implication aussi politique qu'ont le conditionnement des individus.
Oui, et pour donner un exemple un peu plus développé, je voudrais bien présenter un peu l'extrait d'un texte d'une physicienne et politologue allemande qui s'appelle Elvira Schei et qui a notamment travaillé sur l'histoire du nucléaire. Et alors elle parle de ce qu'on appelle le manifeste de Göttingen, qui en fait était un manifeste publié en 1957 en Allemagne et publié par 18 chercheurs dans le nucléaire, c'est-à-dire vraiment un peu la crème de la crème des physiciens allemands. Le contenu alors de ce manifeste, c'est l'expression de leur refus de participer à la construction d'armes nucléaires. Et ce texte a eu une très grande résonance en Allemagne de l'Ouest et a ouvert un débat sur les liens entre science et pouvoir politique pour la première fois en termes de conscience et de morale. Et alors pour comprendre la signification de ce texte, il faut regarder d'un peu plus près le contexte. En gros, le manifeste est publié juste avant la conférence ministérielle de l'OTAN et l'acceptation par le gouvernement ouest-allemand du stationnement d'armes nucléaires en Allemagne de l'Ouest. Et aussi, en 57, c'est seulement deux ans après que les traités de Paris... la souveraineté nationale du gouvernement allemand a été rétablie. On parle toujours de l'Allemagne de l'Ouest là, et aussi l'Allemagne de l'Ouest est devenue membre de l'OTAN. Et ça, c'est ce qui concerne plus les scientifiques. Et ben, il y a eu la levée des limitations sur la recherche allemande et surtout sur la recherche nucléaire. Alors tout ça, ça veut dire que à ce moment-là, il y avait vraiment un enjeu pour les scientifiques allemands. De faire preuve d'une responsabilité morale, vu le passé récent de l'Allemagne, c'est juste 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et, euh, Et alors les critiques en fait que Elvira Scheich elle fait de ce manifeste, c'est un premier point, c'est ce qu'elle appelle un silence parlant. C'est-à-dire que en fait dans le manifeste, ils évoquent la puissance destructive des armes nucléaires de manière assez abstraite comme un danger pour l'humanité tout entière. Ils réduisent en fait la problématique à une question de vie ou de mort. Et en même temps, ils ne mentionnent à aucun moment le passé récent, la Seconde Guerre mondiale et les crimes des nazis. Et en fait, le débat est tourné ainsi autour des notions de guerre et d'autodestruction de l'humanité. Mais à aucun moment, il y a une réflexion que ce n'est pas l'humanité tout entière qui lance des bombes atomiques et que ce sont bien des populations précises qui sont visées par des guerres. Et aussi, la radioactivité est présentée comme perverse, mauvaise, non contrôlable. Et l'horreur d'une guerre atomique est évoquée avec des images du déluge, signe d'un destin imprécis et une culpabilité diffuse comme ça. Et en fait, cette manière de parler des choses, ça permet de surtout ne pas poser la question de la responsabilité de cette situation. Et le silence sur le passé nazi permet justement aussi de ne pas réfléchir sur la responsabilité concrète des scientifiques allemands concernant les crimes nazis, la guerre et l'absence de leurs collègues juifs. Et alors, à la même époque, en Allemagne, apparaît une nouvelle figure dans la littérature, qui est en fait le héros scientifique, sauveur de l'humanité. Il y a vraiment beaucoup d'ouvrages en fait, qui traitent de ça. Par exemple, il y a Galilée de Bertolt Brecht ou le cas Oppenheimer de Kiphart. Là-dedans, en fait, la bombe atomique devient le péché originel de la physique et le héros scientifique qui se trouve dans le conflit entre savoir et conscience morale créer une sorte de légende qui couvre une réalité bien moins glorieuse parce que en réalité il y a bien eu en fait des désaccords entre les scientifiques allemands et le gouvernement nazi pour établir des domaines d'autonomie en fait pour les chercheurs et aussi il y a eu vraiment des collaborations ouvertes ou parfois un peu moins ouvertes mais c'est vraiment cette légende des scientifiques qui seraient opposés aux nazis. Elle cache des choses assez moches. Et en fait, les signataires de ce manifeste se servent de cette nouvelle figure de l'imaginaire collectif, qui est cet héros scientifique, pour donner d'eux-mêmes en fait l'image de personnes dotées d'une autorité scientifique et morale. Et l'objectif du manifeste, c'est bien en fait de quelque part les présenter comme des chercheurs responsables dans l'idée qu'il y a une technologie qui peut menacer l'humanité, mais en fait elle pose pas du tout des questions concrètes. Enfin, elle ça reste tout complètement abstrait. Stratégie a relativement bien marché parce que ils ont pu pousser vraiment le nucléaire civil en Allemagne pendant tout un moment et à ce moment-là quelques mois après le manifeste ils ont pu participer à la conférence de l'ONU sur les atomes pour la paix.
Mais finalement, ce que montre cette histoire, qui est aussi qu'on pourrait trouver tout à fait actuelle, parce que la responsabilité morale, politique des chercheurs aujourd'hui, elle peut être questionnée de la même façon, c'est cette espèce de paradoxe entre ce qu'on racontait tout à l'heure sur les experts qui sont dans la production d'une vérité imposée à tous, etc., et qui sont en même temps dans des secteurs tellement spécialisés, tellement pointus, ils peuvent se dire qu'ils sont pas responsables des choses, que la politique se passe ailleurs, que d'ailleurs personne n'est responsable puisque c'est toujours quelqu'un d'autre qui décide, et donc qu'il n'y a pas de responsabilité, mais que dans le même moment ce sont en même temps des gens très responsables et même des sauveurs de l'humanité, des gens très humanistes, des gens qui vont aider le monde et le commun des mortels à s'en sortir, proposer le progrès pour demain et pour tous. Voilà, une sorte d'image extrêmement positive, mais qui s'incarne pas concrètement dans une responsabilité, dans qu'est-ce qu'ils font techniquement, vraiment, c'est quoi les objets sur lesquels ils travaillent. C'est quoi les objets qu'ils produisent, comment est-ce qu'ils valident un système, comment est-ce qu'ils valident un projet politique, en fait.
Et aussi, un autre sujet qui nous était important d'aborder, c'est que vraiment, c'est important de réaliser que les scientifiques, dont les travaux sont le plus largement diffusés, sont des occidentaux, quoi. Et qui baignent complètement dans la culture occidentale, et pourtant qui vont prétendre à l'universalisme. C'est-à-dire que leur point de vue sur le monde, qui est forcément lié à leur référence culturelle, ils vont le prétendre, ce point de vue-là, comme le bon point de vue et l'unique point de vue. Et alors derrière ça, en plus, il y a clairement une bonne dose de racisme, parce que ces scientifiques-là, quelque part, d'une certaine façon, ils diffusent l'idée que seuls leur culture, donc leur culture occidentale, serait rationnelle, et que tout ce qui serait extérieur à l'Occident serait donc de l'ordre du primitif, avec une vision simpliste, en tout cas pas assez complexe du monde. Enfin, bon, en vérité, on n'a pas vraiment le temps là aujourd'hui de développer ce sujet qui devrait vraiment, à mon sens, faire l'objet d'une émission à part entière sur les rapports entre Orient et Occident. Mais c'était quand même important pour nous de pointer cette soi-disant rationalité occidentale et de rappeler que c'est toujours important de prendre en compte d'où se place le chercheur pour énoncer ses théories.
Vous êtes toujours sur Dégenré, l'émission féministe pour déranger sur Radio Kaleidoscope 97 FM. Et aujourd'hui, c'est avec des réflexions critiques sur la science et la société industrielle.
Et alors jusqu'à maintenant, voilà, on a surtout parlé de science, de scientifiques, de chercheurs. Je vais essayer de faire une petite synthèse de ça, en fait, qui va être en même temps une manière de reprendre finalement plus largement des critiques développé par ce qu'on peut appeler des anti-industriels, voilà, des gens critiques de la société industrielle. Et puis donc, du coup, voilà, de passer un peu de cette notion de science, d'institution scientifique, de chercheur, à l'industrie, les technologies, tout ce qui émane, qui émerge, qui est produit par ces structures scientifiques. Pour revenir à ce qu'on a dit un peu avant, donc voilà, une des critiques principales qu'on peut retenir, c'est donc cette critique de la science rationnelle, occidentale, imposée comme savoir absolu, finalement, la critique d'un projet scientifique, ou qu'on peut même appeler scientiste, dans l'idée que c'est une espèce d'imposition idéologique, où voilà, on confond interprétation et réalité, interprétation et vérité. Et donc au-delà de ça, il y a finalement derrière une sorte de fantasme d'un monde qui serait un monde machine, un monde décortiquable, un monde explicable uniquement par des équations, un monde où il faudrait unifier toutes les théories pour donner un système d'interprétation, un monde où il faudrait faire converger toutes les théories, et voilà. Et alors là, derrière un tel projet, il y a des prétentions qu'on pourrait dire impérialistes, colonialistes. On a parlé d'universalisme tout à l'heure. L'universalisme, c'est bien un concept occidental pour prétendre comme ça à avoir les bonnes idées pour tout le monde et avoir les moyens de les imposer économiquement et militairement partout. Et enfin, finalement, on peut dire que cette critique de la science, de ce projet scientiste, dans la bouche de pas mal d'anti-industriels, il produit ce qu'ils appellent un assèchement du monde, une sorte de désertification, de désert, finalement un appauvrissement de ce monde, dans le sens où on perd beaucoup de choses, on perd des perceptions, on perd des compréhensions du monde en le réduisant à ses interprétations scientifiques et scientistes. Ensuite, au sujet donc plutôt des scientifiques et des chercheurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée que ces chercheurs sont un rouage très important de ce système et qu'il faut arriver à pointer cette double contradiction, qui sont en même temps des héros, des gens issus d'une tradition humaniste, finalement comme les avocats, les médecins, les journalistes, toutes ces professions bourgeoises, intellectuelles, libérales, qui seraient là simplement pour le bonheur, le progrès de l'humanité, fiers de faire ce qu'ils font et dans des grandes vocations très généreuses. Et en même temps, des gens, voilà, c'est des héros, et ils sont complètement irresponsables, ils sont cloisonnés dans leur domaine d'expertise, ils n'ont pas d'idée globale sur les choses, ou ils vont toujours se renvoyer les responsabilités. Donc finalement, des gens qu'on ne peut pas critiquer, soit parce qu'ils font que des choses bien, soit parce qu'ils ne sont responsables de rien dans ce qu'ils font. Donc voilà, ça c'est une critique très importante pour essayer d'expliquer aux chercheurs que même si humainement on peut les trouver sympathiques ou que sans doute ils ont pour une part d'entre eux des bonnes intentions, tout le monde ne les apprécie pas. Tout le monde ne pense pas qu'ils ne font que des choses bien. Et alors voilà, ça c'était un peu science, scientifique, chercheur. Parlons maintenant de la société industrielle. Finalement, qu'est-ce que c'est que la société industrielle ? On pourrait dire c'est une société qui utilise des machines, qui mécanise ses systèmes d'organisation, ses systèmes de production pour produire des objets, de la nourriture. Peut-être c'est plus que ça, c'est des machines, mais c'est donc l'automatisation, le fait d'utiliser des machines qui font qu'on plein de gestes, on les fait plus nous-mêmes. Ils sont automatisés par des techniques, par des technologies. Et finalement, pour moi, en tout cas dans ce que j'ai retenu, c'est bien plus que ça encore. La société industrielle, c'est aussi une question d'échelle, c'est-à-dire une échelle d'organisation, une échelle de production. Le fait d'organiser les choses à des grandes échelles, de devoir produire massivement pour beaucoup de gens avec beaucoup de moyens. Et ça implique beaucoup de choses.
Et une échelle d'habitation aussi.
Bah, c'est ça, oui.
De regrouper les personnes à un endroit donné, quoi.
Voilà. Et donc, dans les premiers dangers qui sont pointés par les critiques anti-industrielles sur ce que produit cette société, il y a, en fait, ce qu'on voit le plus souvent, les dangers immédiats les plus visibles, c'est-à-dire les pollutions catastrophiques, catastrophistes. Alors, on parle du nucléaire, on parle des OGM, on parle de la chimie, on parle de nos technologies, on parle de l'amiante, on parle de plein de choses comme ça. Qui sont en train de juste complètement détruire nos environnements, mais qui sont pas uniquement des destructions à moyen ou à long terme, qui peuvent être aussi des destructions à très court terme, puisque bon voilà, si la bombe explose, s'il y a un virus qui se répand, ça peut aussi aller très vite et on est dans des peurs de destruction forte, quoi. Au-delà de ça, ou même, ah oui, j'ai oublié de parler quand même d'autres exemples, il n'y a pas que les grosses bombes et les grands virus, la voiture, la télévision, c'est des objets qui tout seuls sont finalement assez anodins, mais si on imagine les étendre à l'échelle d'une planète, ça conduit à des désastres écologiques, humains, dans la modification des rythmes de vie, la pollution de l'atmosphère, etc. Mais après ces dangers très visibles, en fait, les critiques anti-industrielles pointent plein d'autres problèmes. On parlait tout à l'heure du capitalisme, du système économique. La science et l'industrie sont poussées dans le sens du profit. Il faut faire de l'argent. Et là, on a une équation très importante. C'est innovation égale croissance égale emploi égale progrès. C'est une sorte de dogme. Il n'est plus possible de le remettre en cause. Et finalement, on se pose pas la question si c'est bien de toute façon de produire de l'emploi pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir acheter les merdes qu'on doit produire pour créer de l'emploi. Ben voilà, on a un système verrouillé. C'est parfait, quoi. Et puis, on parlait en tout début d'émission d'autres points encore, de cette question de pouvoir et finalement de la perte de pouvoir, de la dépossession. Ces grandes échelles d'organisation, ces échelles très complexes, ça fait qu'on n'a plus prise sur rien. On ne sait pas où les choses sont produites. Les matériaux, ils viennent de l'autre bout de la planète, ils sont trimballés depuis l'Afrique en Asie pour être transformés, pour être emballés ailleurs, pour être finalement vendus en Finlande ou en France ou ailleurs. Et finalement, à ces échelles-là, plus personne n'est responsable. Il y a une chaîne d'exécutants. Et finalement, on ne peut pas choisir ce qu'on produit. On ne peut pas maîtriser comment c'est produit. Et on est complètement dépendant de systèmes qu'on ne comprend pas. Ça veut dire aussi qu'on est dépendant de produits qu'on ne choisit pas. Puisque finalement, voilà, les produits arrivent dans notre assiette au supermarché. On ne sait pas d'où ils viennent. Et on n'a pas vraiment le choix de là où ils viennent, quoi. Au-delà de ça, sur cette question de dépossession, ben, c'est pas uniquement comment on produit et comment on acquiert des choses, mais c'est aussi comment on les maîtrise après coup. On peut plus s'en occuper nous-mêmes, on peut plus les réparer. Il y a encore pas si longtemps, on pouvait ouvrir des moteurs de voiture et les réparer nous-mêmes. Aujourd'hui, tout est électronisé, et voire même, il y a un cachet sur le capot qui fait que si on ouvre le capot nous-mêmes, on n'a plus l'assurance et on est obligé de solliciter des experts, une fois de plus des spécialistes, des gens qui nous demandent de l'argent pour faire un travail qu'on ne sait plus faire nous-mêmes parce qu'il est trop complexe. Donc finalement, avec tout ça, eh ben, c'est nos environnements et nos choix qui sont modifiés et où on perd en liberté pour les organiser comme on veut. Et puis petit à petit, on pourrait dire que ce ne sont plus les machines qui s'adaptent à nous, mais nous qui nous adaptons aux machines. Comme je racontais tout à l'heure avec ces exemples de la voiture ou de la télévision ou même du rapport au travail où finalement quand je conduis, il y a quelqu'un qui conduit mal en face et je vais m'énerver contre lui et je vais m'énerver contre le conducteur qui conduit mal et je vais pas me poser la question de si c'est pas ce rythme de conduite et ce véhicule qui sont mal conçus et qui créent des comportements complètement crétins. De la même manière que si mon ordinateur tombe en panne, je vais culpabiliser de moi ne pas savoir m'en servir, alors que je pourrais aussi penser que c'est une machine qui est mal conçue pour que ce soit aussi compliqué de s'en servir. Donc voilà, c'est toute cette déshumanisation finalement, où on devient des sortes de produits et on est sommé de s'adapter à des machines. Et alors voilà, dernier point, que je vais développer aussi parce qu'il y en aurait plein d'autres, des points. Mais c'est cette question de la sécurité du sécuritaire dans l'industrie et dans les technologies. Puisque finalement, des technologies aussi complexes, on est encore dans des histoires de complexité et d'échelle, c'est des technologies qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Alors si des États font le choix par exemple du nucléaire, et qui disent « mais le nucléaire c'est beaucoup trop dangereux et compliqué, il faut le mettre aux mains des militaires et des spécialistes », c'est finalement dire « ben on fait des choix politiques forts, par exemple politique énergétique, 90% nucléaire en France ». Et ce sont des choix qui sont incompatibles avec la démocratie et on l'assume. On ne peut pas les mettre entre les mains des citoyens. Citoyens, jamais. Donc voilà, ça c'est très clair. Et au-delà de ça, c'est cette question de finalement ces grandes organisations, ça produit aussi des catastrophes à grande échelle. Hein. On entend parler de la grippe aviaire, de la vache folle, etc. C'est aussi dans des systèmes aussi massifs, avec autant, par exemple, d'animaux dans des énormes élevages qui sont contenus au même endroit. C'est ces plantes qui sont toutes pareilles et qui sont plus immunisées contre un certain nombre de choses, etc. Et ben, qui nécessitent de pucer, de faire des protocoles de contrôle, de fliquer les gens, de faire plein de choses, en fait, qui deviennent des contraintes et des normes très fortes et qui cassent de plus en plus la possibilité de produire à des échelles plus réduites, d'être en vente directe, d'être dans des solidarités locales, etc. Et donc, enfin, on parle de sécuritaire, on parle de technologie du sécuritaire, il y a une grande branche qui s'ouvre devant nous, le fichage des gens, la vidéosurveillance, la biométrie, plein de choses super réjouissantes qui servent à contrôler tous ces gens, parce qu'on les concentre tellement à plein d'endroits, à tel moment, et dans un système qui prétend quand même orienter les gens et vérifier qu'ils restent bien dans les normes. Eh bien, ces technologies, elles s'adaptent vraiment pour devenir des instruments de contrôle. Et puis, dernier point, c'est pas que le sécuritaire quotidien, c'est le militaire, c'est la guerre. En France, encore aujourd'hui, 30% des recherches publiques sont financées par l'armée. Et dans toute l'histoire des sciences, on peut voir que toutes les recherches scientifiques qui se sont développées et qui ont émergé, et qui, voilà, ont été aussi à des fins, ou principalement à des fins militaires. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'une innovation, elle n'est pas développée parce qu'elle marche. Elle marche parce qu'elle est développée. Et elle est développée par des gens qui la financent. Et qui est-ce qui a l'argent? Qui est-ce qui mène les guerres? Voilà. Donc ça, c'était un peu une sorte de résumé pour dire en conclusion que c'est pas uniquement les objets ou les inventions qui pourraient avoir de bons ou de mauvais usages, mais que c'est tout un système, finalement, une sorte de modèle de société politique, sociale, culturelle qu'il faut remettre en cause. Voilà, maintenant, l'idée, ce serait de revenir plus précisément sur les technologies, parce que c'est pas parce qu'on a des grands principes et qu'on se dit que c'est tout un système qu'il faut mettre en cause qu'on peut se dégager comme ça de l'usage des technologies qu'on a au quotidien. Et voilà.
Alors si on se penche justement sur le rapport que les gens, c'est-à-dire la population des non-scientifiques, entretiennent avec les technologies, c'est un peu comme si il n'y avait pas de questions à se poser, quoi. Il n'y avait pas de critique possible. Je crois que les scientifiques ont bien réussi leur mission, celle de convaincre l'ensemble un peu de la population que les technologies, eh bien, c'est le progrès. Et le progrès, c'est bon. Et donc, c'est forcément pour le bien de l'humanité. Donc, c'est très simpliste, mais en même temps, je crois que c'est un peu ce que pourrait donner un micro-trottoir sur ce qu'évoquent les technologies pour les gens. Alors, si on prend un exemple comme celui du décryptage du génome, dont on entend beaucoup parler depuis une vingtaine d'années, notamment grâce au Téléthon, les gens vont souvent penser, souvent et surtout, je pense, penser à tous ces enfants atteints de maladies génétiques que l'on va pouvoir sauver grâce à ça. Hein, c'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'est faite toute la communication pour recueillir des dons pour le Téléthon. Et on va quand même facilement se rendre compte que c'est très simpliste comme approche, puisque ça va occulter finalement qu'il y a une autre, beaucoup d'autres, mais entre autres une autre dimension à ce type d'avancée scientifique. Qui est par exemple le clonage des animaux, mais pourquoi pas des individus. Or, il se trouve quand même que le clonage, c'est quelque chose qui est largement décrié par l'opinion publique. Donc déjà, l'opinion publique, si on lui donnait suffisamment d'informations et de clés de compréhension, peut-être elle se dirait « Ah, c'est peut-être pas aussi simple, en fait, c'est le développement de ces technologies. » Et sinon, lorsqu'on évoque donc cette question on en vient à évoquer cette question de l'usage des technologies, on va facilement entendre que les technologies, elles ne sont pas mauvaises en soi, que c'est leur usage qui va les détourner, qui va peut-être les détourner de leur mission, de leur noble mission première. Alors, je sais pas, on pourrait prendre un exemple. Comme celui d'Einstein, qui est quand même parmi les plus grandes figures scientifiques, les plus renommées de notre siècle, et qui, sur le point de découvrir la bombe atomique, donc a envoyé en 1939 une lettre au président Roosevelt pour le presser de développer les recherches qui permettraient de mettre complètement au point donc l'arme nucléaire. Alors, si on est dans une grande confiance par rapport à l'être humain, on peut peut-être supposer que Einstein il n'avait pas conscience à ce moment-là que quelques années plus tard cette arme nucléaire serait la cause d'un des plus grands massacres de ce siècle, en l'occurrence le bombardement d'Hiroshima. En tout cas, c'est qu'avec les critiques anti-industrielles que va peut-être se poser cette question un peu en ces termes, de dire on ne peut pas limiter l'impact des technologies à leurs usages. Les technologies, elles peuvent être problématiques en soi, justement dans le rapport au monde qu'elles induisent. Donc voilà un petit peu sur cette question du rapport que les gens vont entretenir aux technologies.
Et alors nous, on va apporter un peu de complexité à ces questions-là, mais seulement après une pause musicale.
Alors notre technicienne a disparu.
Elle serait-elle partie dans le néant ?
Notre technicienne revient, donc une pause musicale.
Une pause.
Alors c'est quoi comme morceau qu'on va s'écouter ? On pourrait peut-être annoncer.
Je pense que tout ça sera balayé.
La machine ?
Ah oui, la machine, elle est revenue.
Je me suis acheté une machine qui ne fabrique rien. Chaque fois que j'y mets 20 centimes, elle me répond merci bien. Il y a des boutons partout, les boutons, moi ça me rend dingue. Je les appuie tout d'un coup, ça fait plus de bruit qu'un flingue. Je me suis acheté une machine à tuer l'ennui. Mais la seule chose qui m'ennuie, c'est qu'elle me pique mes centimes. Je me suis acheté une machine à reculer le temps. Je la mets dans ma cuisine, pour les œufs c'est épatant. Il y a des lumières partout, le néon moi ça me rend dingue. Je les allume tout à coup, elles se reflètent sur le zinc. Je me suis acheté une machine à l'hydroflex humus. Elle prévoit tout ce qu'on devine, y a un cerveau à rébus. Je me suis acheté une machine, je ne peux plus m'en séparer. Je me prends pour ma machine et je ne sais plus rêver. Mais je sais qu'un jour viendra, c'est sûr je prendrai le dingue. Je la jetterai loin de moi pour ne plus voir ce batrague. Je me suis acheté une machine qui ne fabrique rien. Un gadget, un pic centime, sans doute j'en avais besoin. Sans doute j'en avais besoin.
Alors, on revient avec Dégenré, l'émission féministe pour Dégenré.
Dérangé, mais...
oui, c'est ça. Ben, bon, en fait, on peut le tourner dans les sens qu'on veut. Hein.
C'est ça.
Et alors, en fait, nous, on, notamment par rapport aux critiques anti-industrielles, mais enfin, et sur ces réflexions, en fait, entre les technologies en elles-mêmes, leurs usages et les positions critiques par rapport à ça, eh ben, en fait, un point qui nous semble vraiment un peu délicat ou même dangereux, c'est que notamment dans les critiques anti-industrielles, il y a parfois, en fait, un manque de clarté. Pour nous, en fait, quand ça concerne, en fait, la question en quoi les technologies représentent aussi des outils dont des personnes peuvent s'emparer dans une démarche d'émancipation. Et ça va, enfin ça, je pense que ça peut concerner, par exemple, l'avortement médicalisé, la contraception, ou parfois même, il est fait un parallèle entre... l'histoire de l'industrialisation et l'histoire des mouvements féministes. Et alors nous, je crois que, enfin, déjà, il y a certes des courants féministes qui sont souvent plus institutionnels et dans lesquels nous, on se retrouve pas forcément, qui peuvent parfois se contenter de sorte de, enfin, ce qui pour nous est donc une sorte de pseudo-autonomie que des femmes pourraient trouver, en fait, dans le système capitaliste. Mais voilà, je pense que, enfin, nous, on a envie de enfin, je sais pas, d'avoir des critiques plus radicales, mais il nous semble quand même très très important, en fait, de prendre en compte aussi ce que des technologies créent, enfin, par leur existence, en modifiant, en fait, voilà quoi, l'environnement ou les outils, en fait, qui sont à notre disposition. Enfin, qu'est-ce que ça crée concrètement pour des personnes?
Et alors déjà, moi, je trouve que cette notion d'émancipation, j'ai envie de me pencher un peu plus, avec un peu plus d'attention dessus. Et déjà dans l'usage du verbe émanciper, qui peut s'utiliser à la forme pronominale ou non, c'est un peu de grammaire, mais pour moi, ça a du sens. Parce que ça pose la question de est-ce qu'on peut émanciper, est-ce qu'une technologie peut émanciper quelqu'un ou est-ce qu'une personne peut émanciper quelqu'un d'autre, ce qui pour moi ramène aussi vachement à une notion de subordination. Enfin, on va émanciper un esclave, on va émanciper les femmes. Alors oui, effectivement, là, ça apparaît assez clair.
Et surtout, en fait, si émanciper veut dire s'affranchir d'une domination, enfin, d'une emprise comme ça, et ben, c'est bien par rapport à quelque chose de précis. Enfin, on s'émancipe de quelque chose de précis. Et
être, enfin, et enfin, l'émancipation en général, quoi, avec un grand et, c'est un peu compliqué de l'imaginer parce que, enfin, oui, ça serait toujours hors contexte et hors contexte, enfin, c'est pas très intéressant.
On a plutôt envie de voir que l'émancipation, c'est toujours une démarche active des personnes qui sont concernées par cette émancipation et que on s'émancipe soi-même, quoi. Mm. Donc, utiliser le verbe à la forme pronominale, merci. Et un des exemples qu'on avait envie de prendre pour parler de cette histoire d'émancipation-là, c'est l'exemple de la pilule.
Alors, enfin, on peut, en gros, nous, on considère la pilule comme une sorte de technologie, ou en tout cas, on la, enfin, si on l'appelle comme ça ou pas, peu importe presque, mais on la met un peu sur le même niveau dans le sens où il s'agit de savoirs complexes, en fait, qui sont produits par des structures complexes.
D'accord. Donc, à partir de ce moment-là où on va considérer la pilule comme une technologie, hein, voilà. Donc, on entend souvent que la pilule, elle a libéré les femmes. Alors, moi, ça me fait... enfin, je ne suis pas d'accord, voilà. La pilule, concrètement, c'est un appareil hormonal qui permet de pouvoir avoir des rapports hétérosexuels de pénétration vaginale sans tomber enceinte. Ça permet juste ça. La pilule, elle libère de la peur de la grossesse. Elle ne libère pas les femmes. Enfin, et c'est vraiment... la pilule, dans les années 70, elle a libéré personne, quoi. Enfin, en tout cas, pas les femmes. Elle a juste permis de pouvoir baiser sans se retrouver avec un môme sur les bras, ce qui n'a rien à voir, enfin... Vraiment, je trouve que c'est...
Ouais, si, en fait, au moment où la pilule est apparue sur le marché, des femmes se sont émancipées d'un système patriarcal, et ben c'est bien parce qu'elles étaient dans une démarche active d'émancipation. Et une partie de cette démarche, c'est peut-être de s'emparer de la pilule comme un outil de cette émancipation-là. Mais c'est aussi dans une démarche beaucoup plus large qui, enfin, j'en sais rien, qui passe par peut-être par des groupes de parole, par en tout cas des réflexions, des changements de comportement et des remises en question de structures patriarcales dans les relations sexuelles, etc. Enfin, c'est vraiment ridicule de penser que la pilule ou même n'importe quelle technologie pourrait émanciper quelqu'un.
Alors, en plus, la pilule, elle a certainement été inventée par des hommes dans des laboratoires, on ne sait pas exactement quand. Et alors, moi, je trouve... non, mais c'est bien aussi la preuve, quoi. Enfin, est-ce que les hommes, est-ce que ces biologistes ou ces scientifiques qui ont élaboré la pilule dans leur laboratoire, ils ont vraiment pensé aux femmes et à la libération des femmes et à leur émancipation et à leur bien-être? J'en suis pas tellement convaincue.
Ouais, enfin, même on peut se dire que les raisons en fait qui ont fait qu'à un moment donné la pilule a été développée, c'est bien plus des raisons politiques, c'est-à-dire de l'ordre démographique en fait, parce que ça représente un très bon outil de contrôle des naissances, de contrôle des populations, et puis aussi très très clairement un objectif économique. En termes de profit, parce qu'en fait, quand on regarde un peu le marché de la pilule, au départ où c'était un marché tout nouveau, et ben il y a eu, je sais pas, je crois une quinzaine d'entreprises, enfin de compagnies qui ont travaillé là-dessus, qui ont financé ces recherches-là et tout. Et ben à partir du moment où le marché il s'est stabilisé et il y avait plus tellement de profit à faire là-dedans, et ben le chiffre chute très rapidement.
Et puis le profit économique, c'est aussi pouvoir avoir des travailleurs, en l'occurrence des travailleuses en plus, pour bosser à l'usine et pas être interrompu tout le temps par des congés, maternité, etc. Bon, et après, je veux pas dire par là que c'est pas un moyen aussi d'émancipation possible le travail pour des femmes, enfin de la même manière que la pilule peut l'être aussi, dans le sens où elles contrôlent leur vie et leur grossesse désirée. Mais voilà, l'intérêt économique, c'est clairement que ça a permis aussi à plein de femmes d'en rentrer encore plus facilement dans le marché du travail pour le profit des gens qui les employaient.
Et moi, une autre raison que... Enfin, pas une raison, mais une autre genre de preuve que ça a été inventé par les hommes, cette pilule, c'est que je pense qu'elle ne serait pas exactement faite pareil si c'était des femmes qui l'avaient mise en place. Par exemple, la pilule telle qu'elle est le plus couramment diffusée en France, c'est une pilule qui crée des règles artificielles. C'est-à-dire que quand on prend la pilule tous les mois, tous les mois, on a nos règles qui arrivent, et c'est pas des vraies règles, c'est des genres de fausses règles qui sont créées artificiellement par le système hormonal de la pilule qui va recréer un système soi-disant naturel, biologique. Et alors, c'est pas du tout obligé, quoi. Enfin, d'ailleurs, il y a tout un tas de femmes qui s'arrangent avec leurs plaquettes pour décaler leurs règles ou les annuler un mois sur deux
pour les arranger, parce qu'elles ont un week-end où elles n'ont pas envie d'avoir leurs règles. Enfin, j'en sais rien. Mais moi, je pense que ce serait possible. D'ailleurs, il en existe des pilules qui annulent complètement les règles, sauf qu'elles ont mis des années à être mises en place. Et moi, je trouve que c'est un peu une preuve que ce n'est pas l'intérêt des femmes vraiment qui a été écouté.
Oui, et il y a un peu encore toujours cette idée que de pas, enfin, de prendre la pilule et que ça t'enlève les règles, et ben ça finalement c'est pas bien pour la santé. Enfin, il y a un un danger là-dedans, alors que c'est complètement faux.
Moi, ça ressemble un peu à tu vas avoir tes règles tous les mois, tu vas continuer, parce qu'il faut bien que tu te souviennes que t'es une femme et que pour ça il faut avoir ses règles tous les mois.
Et que une femme, ça a ses règles.
Oui, ce qui est faux. Bon, bref, mais la pilule, c'est de toute façon une méthode parmi d'autres méthodes contraceptives. Hein. Donc, il y a le stérilet, il y en a tout un tas d'autres. Mais alors, l'autorisation de la pilule sur le marché, ça a fait comme disparaître les anciennes méthodes plus traditionnelles, ou en tout cas, ça les a discréditées.
Mmh, ouais, par exemple, il y avait la méthode de température ou la méthode d'Egler, qui sont en fait deux méthodes par... soit par la mesure de la température, soit par en fait une observation d'Egler vaginal, de savoir à quel moment on est dans son cycle et du coup savoir à quel moment en fait il y a le danger ou pas de tomber enceinte. Et alors ces méthodes-là, elles n'ont pas juste disparu comme ça, elles ont été complètement discréditées comme étant archaïques, pas efficaces, pas fiables, etc. Et surtout, en fait, avec une sorte de regard sur elles comme elles sont pas à la hauteur de là où on est dans le processus de civilisation, en fait. Enfin, c'est ça rejoint en fait cette idée de progrès. En fait, nous, on est une société, je sais pas comment dire. Très civilisée, quoi, à la pointe, je sais pas quoi, de l'humanité, quelque part comme ça. Et voilà, il nous faut un moyen de contraception à la hauteur de ça.
Hautement technologisé, un truc comme ça.
Oui.
Et puis c'est considéré que face à un problème, mais même plus généralement, j'ai l'impression face à plein d'histoires en lien avec les sciences ou les technologies, c'est que face à un problème, une problématique, il y aura une solution apportée par les recherches. C'est vraiment ne pas considérer toute la diversité, on l'a déjà énoncé dans l'émission, toute la diversité des vécus par rapport à un problème. Donc là, concrètement, le désir de pouvoir contrôler sa fertilité. Donc ne pas considérer toute cette diversité-là et donc toute la diversité aussi des solutions, quoi, enfin des possibles face à ça, quoi.
Ouais, alors que en fait, si on veut à un moment donné vraiment parler d'efficacité, ça serait bien que cette diversité existe. Enfin, cette diversité me semble vachement plus efficace. Enfin, en gros, d'avoir une panoplie d'outils différents à disposition où chaque personne peut trouver l'outil qui lui correspond le mieux. Ça me semble vachement plus efficace que juste avoir un et où du coup les personnes, eh ben, une fois de plus, doivent s'adapter en fait à ce qu'il y a sur le marché, quoi, et non pas le sens inverse.
La maîtrise de ça, en fait, parce que c'est aussi qu'on met sur le marché un outil qu'on n'accompagne pas de réelles réflexions sur ce que ça représente sur la... sur notre sexualité. Enfin, moi, je connais plein de femmes que la prise de la pilule, ça, elles le disent elles-mêmes, ça leur a limité leur libido. Enfin, je sais pas. Ça a plein de... enfin, et ça, on n'en parle pas. On prescrit la pilule à des jeunes filles de 13 ans pour l'acné, alors que certainement que c'est possible de faire autrement ou de juste d'accepter d'avoir des boutons. Ce que je veux dire, c'est que la pilule devient une espèce de solution miracle pour toutes les femmes, alors que certainement il y a plein de femmes qui prennent la pilule qui pourraient ne pas la prendre pendant 5 ans parce qu'elles n'en ont pas tellement besoin finalement, et puis la reprendre. Enfin, il pourrait y avoir plein de possibles, mais non, ça va être l'unique.
Oui, et c'est pas juste en fait dans comment elle est utilisée. Mais aussi comment elle est fabriquée, en fait, comment elle est, cette technologie-là est développée, et que, notamment, par exemple, pour donner un exemple concret, eh ben, l'implant, en fait, qui est en train de, enfin, qui est relativement récent en France sur le marché, je sais pas exactement, mais je pense que ça doit faire 5-6 ans, quoi, ou peut-être un peu plus. En tout cas, il est testé depuis les années 70 sur des femmes en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Alors qu'au départ, il y avait vraiment des effets secondaires énormes et très très contraignants et qui rendaient vraiment les femmes malades. Alors que dans ces pays-là, il y a encore moins un accès à des structures de soins qui pourraient un petit peu aller, pallier à ce truc des effets secondaires. Et voilà, et par exemple, moi, je trouve ça très important d'avoir un regard critique là-dessus et de refuser ce type de démarche-là. Mais je crois que ce n'est pas pour autant en fait, que j'ai envie de me placer dans un rejet ou un refus catégorique en fait, de la pilule ou de l'implant. Parce que, notamment, par exemple, sur le processus de fabrication ou sur ce développement en fait, et les tests et tout ça, on peut imaginer d'autres processus. Par exemple, dans la lutte contre le sida, il y a des groupes de malades volontaires qui, justement, refusent que les médicaments soient testés sur des personnes en Afrique, etc., et qui donc, en fait, disent, eh ben nous, on est quelque part des cobayes volontaires pour participer à ce que des médicaments contre le sida puissent être développés. Et alors, voilà, peut-être un dernier point, en fait, de la critique sur la pilule, c'est en fait que c'est vachement difficile de regarder en fait une technologie de manière isolée et de la sortir de son contexte, et c'est peut-être là-dedans que je rejoins un peu les critiques industrielles qui parlent pas seulement des technologies mais du monde qui les produit. Et ben c'est que par exemple, et ben si on imaginerait une société où l'avortement serait un acte vachement plus accepté, vachement plus facile en fait à faire, et moins chargé d'un poids moral et médicalisé et bureaucratique en fait, comme c'est le cas actuellement, et ben on pourrait peut-être plus facilement refuser d'avoir recours à une technologie aussi coûteuse et complexe en fait qu'est la pilule. Parce que aussi d'autres méthodes de contraception, et ben si elles sont peut-être un peu moins fiables ou quoi, et ben c'est pas très grave. Parce que ça serait possible toujours d'avorter. Et ça serait pas un acte aussi, grave que c'est actuellement.
Alors, pour conclure un peu sur cette partie sur l'émancipation, et puis on a beaucoup développé cet exemple de la pilule parce qu'il nous semblait assez riche de plein de réflexions. Donc, j'avais envie de dire que vraiment. On a vraiment envie d'avoir un regard critique sur la pilule, en ce qu'elle représente de coûts de production, dont j'ai d'ailleurs aucune idée, de moyens de choix politiques et économiques, de moyens de production, de dangers sur la santé des femmes qui la prennent, parce qu'on a très peu de recul là-dessus. Les premières femmes qui l'ont prise en France, maintenant elles ont 60 ans, 70 ans, on ne sait pas encore vraiment. On a très très peu de recul. Les jeunes filles qui la prennent maintenant des 13 ans, on sait encore moins. Mais on avait vraiment envie d'insister sur l'importance de faire la différence entre le regard critique et le jugement des femmes qui utilisent la pilule, qui ont fait ce choix-là d'utiliser la pilule, que ce soit comme un moyen contraceptif ou pour l'influence qu'elles ont sur leurs règles ou sur leur corps. Et vraiment d'insister que nous, on n'est pas dans ce jugement-là, pas du tout. Et que pour nous, c'est vraiment...
Reconnaître que ça puisse être vraiment un outil dans une démarche d'émancipation ou de reprise en fait de pouvoir sur son corps, sur sa propre vie, et que c'est une dimension qui nous semble importante au même titre en fait que ces critiques là, parce que en fait les femmes c'est important en fait ces outils de prise en main en fait de nos propres vies.
Et c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre en compte le contexte et la réalité, et que pour nous c'est aux femmes et à personne d'autre de définir leur réalité et de faire les choix qui vont avec.
Feel so nice.
Alors, dégenrer touche à sa fin. Donc, en conclusion, il nous semble important d'insister sur le fait que toutes ces critiques là de la science, donc en partie amenées aussi par des courants féministes, mais aussi donc par des courants anti-industriels, comme on l'a vu, ces critiques là elles sont fondamentales parce que cette science là qu'on critique, elle est étroitement liée à différents systèmes de domination qui vont se superposer, comme le système capitaliste et le système patriarcal. Et dans ce sens-là, il nous semble pertinent de lutter contre ces systèmes, ce qui implique aussi qu'on lutte contre la science sous ses formes actuelles. Alors, pour autant, je crois que le risque que nous, on peut voir à cette logique-là, ce serait que ces luttes, elles gomment toutes les autres, parce qu'elles deviendraient prioritaires, voire seules valables. Alors, pour nous, ce raisonnement-là, c'est un positionnement politique, mais il peut vraiment y en avoir d'autres. Et c'est un petit peu ce qu'on développait là par rapport à cet exemple de la pilule. C'est qu'à notre sens, ce sont bien les premières personnes concernées qui vont pouvoir mettre en place les luttes qui leur correspondent, et que ces luttes-là, elles doivent avoir un espace pour exister, et qu'en général, ce qu'on voit aussi, c'est que ces luttes-là, elles s'enrichissent aussi et se complètent et correspondent un peu à la complexité en fait des réalités sociales.
Et je voudrais même aller plus loin, en fait, sur cette histoire de ce qu'on peut appeler les luttes prioritaires. Ce que j'ai rencontré, notamment chez pas mal de militants un petit peu anti-industriels, qui disent « c'est ça la cible », comme le capitalisme, là la cible c'est l'industrie ou la société industrielle. Et puis finalement, qui nous disent si on est féministe ou si on s'intéresse à d'autres choses. Mais si vous faites ça, non seulement vous aidez pas à abattre le capitalisme parce que vous vous dispersez, mais presque peut-être vous êtes nos ennemis. Vous êtes presque, on pourrait dire, contre-révolutionnaires. Invisible. Parce que, d'une certaine manière, vous aménagez des espaces de vie possibles et agréables dans ce système, alors que nous, on veut le détruire de manière globale. Alors écoutez, arrêtez avec votre féminisme. On va d'abord abattre la société industrielle et puis après, on parlera de nos rapports entre nous et puis on essaiera de se comporter un peu mieux, quoi. Et moi, j'ai vraiment envie de répondre à ça, ce truc que je pense pas du tout, en fait, que ce soit des luttes incompatibles, et que pour les rendre compatibles, il faut s'intéresser aux situations concrètes, il faut en revenir aux gens, à ce qu'ils vivent, et c'est dans la compréhension détaillée et affinée de ce qui se passe et de ce qu'ils vivent qu'on peut retrouver des points d'accord, qu'on peut retrouver des points de convergence, et qu'on peut trouver des manières d'être ensemble sur ces luttes.
Voilà. Et parce qu'on pouvait voir un peu aussi, finalement, dans cette idée de lutte qui serait considérée comme minoritaire, d'autres apports d'autres groupes. Alors, pour terminer, on va vous donner quelques informations, parce que on l'a pas précisé en introduction cette émission, mais c'est pas pour rien non plus qu'on fait cette émission aujourd'hui. C'est aussi parce que demain, après-demain, il y a l'inauguration de Minatech, donc qui est un pôle.
Oui, un espèce de pôle, on peut dire, un pôle, un centre de recherche public européen sur les micro-nanotechnologies. Un énorme investissement, le plus grand centre européen construit pour faire ça. Inauguré donc vendredi 2 juin, après-demain, à Minatech, sur le polygone scientifique derrière la gare. Et voilà, et un certain nombre de gens au sein d'un groupe qui s'appelle OGN, Opposition Grenobloise aux Nécrotechnologies, qui appellent à une manifestation large de contestation contre la construction de ce centre, contre qui va s'y produire et contre la manière dont ce centre nous a été imposé sans aucune information et aucune discussion ou possibilité de choix là-dessus. Donc la manifestation aura lieu jeudi 1er juin. Le rendez-vous à 12h, place Félix Poulard en centre-ville. Et puis, pour ajouter, il y a un certain nombre de manifestations qui se sont organisées autour pour répondre à ce qui s'appelle le Minatech Crossroad, l'espèce de 4 jours de marathon des chercheurs qui découvrent avec joie Minatech. Donc ce soir, là, dans dans un moment, il y aura un grand débat sur la bifurque, donc ce lieu qui est situé à côté de la Maison de la Culture dans le sud de Grenoble. Donc un grand débat sur les technologies de pointe, les nanotechnologies et la présence de Minatech. Ça commence à 20h30, donc dans quelques instants en fait. Et également, je ne sais plus quoi.
Mais peut-être qu'on peut donner les coordonnées du site internet en fait, d'OGN. Ou alors tapez sur votre moteur de recherche OGN. Vous verrez qu'il y a un site internet avec un peu donc, les diverses informations sur les événements, rencontres, débats, etc. organisés dans ce cadre-là. Donc on se quitte sur Dégenré avec une petite dédicace.
Alors pour finir, je voudrais dédicacer cette chanson à une super militante anti-industrielle féministe, comme quoi c'est possible. C'est une chanson qui s'appelle Sister Carol et qui est... Non, c'est une chanson interprétée par Sister Carol et qui s'appelle Black Cinderella.
Bien, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Coming from Sister Carol from the Brooklyn area, is I will tell it to you, say. Sing, 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 is I will tell it to you, say. But when me say, say in a 81, me say me did a imitator. But no one 82, me say me a originator. And in a 83, me say me a figurator. For them, you sell yourself, me say me want to appreciate, me say to you. Me sell yourself, me dedicating this one to you. Me say to you, mama, me say me dedicating this one to you. But watch your man, eh? Say that I am a black Cinderella who have a bun up no sense in me, yeah. Me never have no fairy godmother, only the blessing from a female sweet Jaja. Me say to you, no matter if you're purple, brown or blue, you come in at the dance hall barefoot and with shoe. You hear them, you tell you what they love, it fits you. Beru styles it, sing, 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 sing to you. Do it, chop, hey, Lord have mercy. But when me say, hey, me say me met a little virgin by the name of Brigadier. Me hear him DJ, me have to watch and steer. And tell me, Sister Carol, don't you have no fear. For Poopa bring him on, him always mash it every year. Take care. The first time me DJ, it was last. Said that was 81, but now what this is 82. You hear them, you sell your outfit for what for true. Me not go hesitate, me say for DJ for you. Because me did I dedicate this one to you. Slang, 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 slang,
slang, slang, slang, slang, slang,
consider me, oh King Selassie, consider me. Sing, 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 sing to you. Me tell you, say me dedicating this one to you. To you, to you, to you, to you, to you alone. I tell you love to niggas, I'm gonna weep and moan. I when I see Sister Carol, I'm gonna mash it and gone home. Bong, diddling, hey, to you, do it, y'all. Lord have mercy, to you. Send me nice, me till the lungs are harder like a sugar.